Il est 18h dans 5 secondes sur France Culture, le journal. Mathieu Laurent, bonsoir Mathieu.
Bonsoir Frédéric et bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, décryptage et analyse de l'annonce en début d'après-midi par Donald Trump de l'élimination d'Abou Bakr al-Baghdadi, le chef de Daesh. Correspondance de Loïc Loury, invité du journal, Anne Giudicelli, directrice du cabinet Terrorisque. Nous rendrons également à Barcelone où ont défilé des dizaines de milliers de manifestants unionistes. Enfin, avec Diane Berger, nous prendrons la mesure des difficultés rencontrées par les participants au deuxième week-end de la Convention citoyenne pour le climat, un délicat exercice de démocratie participative. Washington annonçait hier une annonce très importante, prévue ce matin. Comme attendu, Donald Trump a confirmé il y a un peu plus de 2 heures la mort d'Abou Bakr al-Baghdadi, le leader du groupe État islamique, a été tué la nuit dernière, lors d'une opération militaire des États-Unis dans le nord-ouest de la Syrie. Le président américain l'a annoncé lors d'une prise de parole très solennelle depuis la Maison-Blanche. New York, Loïc Loury.
Quelque chose d'énorme vient de se passer, voilà ce qu'affirmait hier sur Twitter, énigmatique, un Donald Trump visiblement impatient de prendre la parole. C'est chose faite et le président américain confirme la disparition du leader de Daesh. Last night, the United States... La nuit dernière, les États-Unis ont rendu justice au pire terroriste du monde. Abou Bakr al-Baghdadi est mort. Pas de préambule, le ton est solennel, mais les mots sont durs. Lorsque Donald Trump décrit cette opération menée, dit-il, par d'incroyables soldats face à de vicieux terroristes, Baghdadi, assure-t-il, est mort comme un chien. Le voyou qui mettait son énergie à intimider les autres a vécu ses derniers instants dans la peur, la panique les plus totales, effrayé, terrifié par les forces américaines qui fondaient sur lui. Un homme acculé qui se sera finalement fait exploser avec 3 de ses enfant, les autorités attendaient un test ADN positif, affirme Donald Trump, pour confirmer la fin de cette traque qui aura duré des années. Les États-Unis ont cherché Baghdadi pendant des années. Capturer ou tuer Baghdadi était la priorité sécuritaire absolue de mon administration. Le président américain peut donc se féliciter, car si le monde n'est pas forcément, comme il l'assure, plus sûr qu'avant, eh bien cela n'en reste pas moins une victoire incontestable à un an de la présidentielle américaine.
Bonsoir Anne Giudicelli.
Oui, bonsoir.
Et merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous dirigez le cabinet Terrorisque. Un premier point peut-être sur la forme de l'intervention du président américain, rhétorique habituelle du bien qu'il emporte sur le mal, ou alors, comme évoqué par Loïc Loury, notre correspondant à New York, bestialisation à outrance de l'ennemi numéro 1 des États-Unis.
Le fait de forcément de décrire l'ennemi recherché depuis longtemps comme quelqu'un qui est mort comme un chien, comme il a dit, ou qui a été un crevard, quoi, en d'autres termes, ça permet de mieux valoriser l'action qui a été menée et aussi de faire de la contre-propagande ou de la propagande, ça dépend dans quel camp on se situe, mais pour en gros utiliser les mêmes termes de la partie adverse, c'est-à-dire des termes, soit c'est des infidèles, mécréants, etc. Là, on a un crevard qui n'a pas eu de courage et qui a pleuré et supplié. C'est pour mieux casser l'image, bien sûr, de cette figure désormais morte.
Alors, Anne Giudicelli, Donald Trump a tenu à remercier la Russie, la Turquie, la Syrie, l'Irak et les Kurdes de Syrie. Pourquoi dans cet ordre, selon vous ?
Alors,
faut-il y lire quelque chose ? Peut-être que ça n'a aucune espèce de pertinence. Ou alors, peut-être justement, dans cet ordre, faut-il lire quelque chose de plus significatif ?
Non, je pense qu'il y a eu une multilatéralité de la coopération, forcément, puisque vu la complexité du terrain, un terrain qui est donc... Alors ça dépend où ça s'est passé, ça. On n'a pas encore de vraie confirmation du lieu où la neutralisation a eu lieu. Mais en revanche, forcément, on est sur un territoire a priori syrien, qui est donc en proie à donc des conflits entre des groupes et le régime, à quelques kilomètres de la frontière turque et kurde, enfin ce qu'il en reste, et évidemment avec des acteurs internationaux comme la Russie et donc la Turquie. Donc forcément, il y a eu des négociations, des échanges d'informations, parce que pour survoler, d'abord il faut décoller d'une base. base, donc a priori ce serait d'Erbil, mais peut-être aussi de Turquie, on n'en est pas sûr, pour les avions américains, et ensuite on survole quand même un territoire syrien. Donc à quel niveau l'information a été transmise? Est-ce que c'est l'information de la localisation de la personne et qui est le partenaire ou l'acteur qui a pu contribuer à donner cette information? Et ensuite, il faut demander une coopération pour l'opération elle-même, c'est-à-dire le survol du territoire, la sécurisation de certains du parcours de ces, à la fois de l'entrée et de la sortie de ces avions et des hommes américains. Donc voilà, pour l'instant, c'est encore un peu flou. Il est certain qu'on peut supposer quand même que les Turcs, qui avaient beaucoup d'éléments infiltrés en Syrie à cet endroit-là, ont peut-être des éléments d'information, de renseignement qui étaient déjà là. Maintenant, c'est le timing aussi sur lequel il faut s'interroger. C'est-à-dire, on est quand même à très près de la date de l'annonce du retrait américain. Alors, est-ce qu'il y a eu des tractations? Est-ce qu'il y a eu une espèce de... Est-ce que ça a propulsé, accéléré la remontée d'informations?
Et oui, on peut se demander si Donald Trump ne dit pas « je mets un point final avantageusement au retrait américain » en annonçant la mort, en éliminant Abu Bakr al-Baghdadi. Un commandant des forces démocratiques syriennes déclare ce soir « les cellules dormantes vont venger Baghdadi, donc on s'attend à tout, y compris des attaques contre les prisons ». Ce que dit ce militaire de haut rang que l'on imagine aisément bien renseigné, témoigne-t-il de la capacité de nuisance et non pas seulement de la capacité d'intimidation des djihadistes de Daesh?
Voilà, la nuisance ou l'intimidation, je veux dire, on intimide quand on est capable d'agir.
Pas forcément, on peut intimider sans avoir les moyens d'aller plus loin.
Non, ce qui compte, c'est qu'effectivement, forcément, il va être considéré comme mort en martyr, c'est-à-dire il est mort en plus en se faisant exploser, ce qui est dans la tradition de l'acte ultime qui est prôné par les dirigeants, et on accuse toujours les dirigeants de ces organisations demander aux autres de s'exploser. Bon, là, il va être un héros martyr. Donc forcément, comme à l'époque de Ben Laden, il va y avoir des actions qui vont être menées en son nom dans la logique de vouloir venger, d'une part, le héros martyr tué par les infidèles, et puis aussi de montrer qu'on est toujours vivant. Donc il va y avoir, effectivement, ça peut catalyser une série d'actions déjà sur place, en effet.
Tout dernier point avec vous, Anne Giudicelli. Le ministre russe de la Défense, Igor Konachenkov, ce soir évoque des détails contradictoires qui soulèvent des questions légitimes et des doutes sur la réalité et surtout sur le succès de cette opération américaine. Faut-il encore en douter?
Alors, j'ai pas lu les éléments de son approche, mais que disait-il, que mettait-il en cause exactement?
Eh bien, il souligne tout un tas de questions légitimes, vous dites de détails contradictoires quant au rendu de l'opération, le rendu opérationnel. Est-ce qu'il y a encore de la place pour un doute?
Oui, il y a de nombreuses questions, et il faudrait déjà savoir exactement quelle est la part de contribution de coopération de chacun, et surtout où l'opération a été menée. En tout cas, à défaut de contradiction, il y a beaucoup de zones d'ombre, et je pense que les prochains jours vont permettre d'en savoir un petit peu plus.
Merci à vous, merci Anne Giudicelli d'avoir accepté notre invitation. Des dizaines de milliers de Libanais se sont donné la main le long de la côte, une chaîne humaine de 170 km du nord au sud, pour afficher ainsi leur unité et surtout leur détermination intacte à chasser une classe politique qu'ils estiment être corrompue. À Barcelone, cette fois, week-end intense de mobilisation, des dizaines de milliers de personnes dans les rues aujourd'hui pour défendre la justice qui a condamné à des peines de prison ferme des dirigeants indépendantistes soutenus hier par 350 000 personnes. Pardon. À Barcelone, Juliette Jay.
Puigdemont en prison, on ne brûle pas Barcelone. Des milliers de manifestants dénoncent les violentes mobilisations indépendantistes et demandent la fin de la révolte contre la sentence. Mais surtout, ils rappellent que la moitié des Catalans ne souhaitent pas l'indépendance. Patricia porte un drapeau espagnol sur le dos.
Soy española y soy catalana.
Je suis espagnole et je suis catalane, mais aujourd'hui je veux que les gens voient qu'en Catalogne, il n'y a pas que des drapeaux indépendantistes. Il y a aussi des drapeaux espagnols à Barcelone. Les manifestations devraient être pacifiques, elles ne devraient pas détruire notre Barcelone. Parce que Barcelone, c'est nous tous, les indépendantistes et ceux qui ne le sont pas.
Jordi se sent aussi fortement catalan, mais il est d'accord avec les peines de prison des politiques.
Je pense que la sentence est juste pour les politiques, car avec le référendum, ils ont fait quelque chose de très grave qui aurait pu très mal finir. Ils méritent leur condamnation. Les politiques ont le devoir d'exercer leur responsabilité devant le peuple, mais ils ne peuvent pas en affronter la moitié.
La manifestation est restée pacifique et a été largement ralliée par les partis d'opposition à quelques jours des élections générales en Espagne. Plus tôt dans la journée, des indépendantistes radicaux ont cependant bloqué des routes pour empêcher l'avancée des quarts de manifestants unionistes.
Juliette Jay à Barcelone. Le deuxième week-end de la Convention citoyenne pour le climat s'est terminé aujourd'hui. 150 citoyens tirés au sort pour réfléchir à la transition écologique. Cette expérience de démocratie participative est une première dans le pays. Bonsoir, Diane Berger.
Bonsoir.
Une première et un exercice difficile, délicat.
Effectivement, avant de passer aux propositions concrètes, les membres de la Convention doivent réfléchir aux principes de justice sociale et aux messages qu'ils veulent adresser aux Français. Mais déjà, plusieurs participants soulignent le manque de temps qu'on leur donne. C'est le cas par exemple de Jean-Luc, retraité de la Somme.
Pour moi, c'est un peu frustrant que ne pouvant pas aller au bout des choses, bon, ben forcément, il y a des choses qui vont se perdre. J'ai vu certaines propositions de notre table apparaître en plénière. Je pense que la synthétisation faisait perdre du sens à ce qu'on avait voulu dire. Comme on n'a pas là l'occasion vraiment de justifier le propos, et de ce fait-là, forcément, ça peut être mal interprété par d'autres.
Et justement, en plénière, Delphine, une juriste venue de Rouen, s'est étonnée devant les synthèses présentées. Elle a relevé plusieurs approximations. En voici un exemple.
Toutes les recommandations devaient être appliquées à toutes les catégories socio-professionnelles. Un terme extrêmement précis, employé de façon mal adaptée à la formulation. Une recommandation, une loi, un projet de loi doit malgré tout être précis et pas sujet à interprétation.
Mais malgré ces difficultés, au terme de ce week-end, les participants ont réussi à adopter un texte assez général. Les messages clés adressés aux citoyens qui rappellent qu'il est urgent d'agir pour le climat, qu'il faudra changer nos modes de vie et que tous les Français sont invités à participer via le site internet de la Convention.
Merci à vous Diane Berger. La météo demain lundi, ciel gris de la Bretagne au nord-est. Ces nuages parviennent à gagner le massif central. De faibles pluies se produisent en journée. Elles sont un peu plus soutenues sur la Bretagne en matinée, au nord de la Seine. Temps plus sec. Ce journal a été préparé avec Brice Garcia.